Sitôt la porte fermée, elle a très vite déposé ses bagages, n'importe où, au milieu de la pièce. Elle a retiré sa robe de voyage, lancé ses chaussures sur la moquette. Elle est assise maintenant au bord du lit. Elle ne se repose pas. Elle n'a pas encore pris le temps de se reposer, de fermer les yeux, de s'étendre un moment contre les draps frais, avec un oreiller sous la tête. Elle est assise dans la lumière blanche qui l'éclaire de dos, avec dans les mains une feuille de papier qu'elle s'efforce de lire. C'est probablement un horaire de chemin de fer plutôt qu'une lettre. La feuille se déploie en quatre volets, avec les cassures des plis du papier, bien visibles, sur son genou gauche. Non, il ne s'agit pas d'une lettre qu'il aurait attendue à l'hôtel ou qu'elle serait allée retirer à la poste restante. C'est un horaire de chemin de fer. Et l'on comprend que la femme n'est là dans cette chambre que pour une nuit et qu'elle va repartir le lendemain. Si elle est descendue dans cet hôtel, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de correspondance Sita et qu'il lui faut attendre avant de reprendre le train, au petit jour. C'est une femme qui ne fait pas d'effort pour être belle. Elle a de longues jambes, des cuisses maigres, presque des cuisses de garçon. Mais sa poitrine, en revanche, est très opulente. Elle a le buste et le ventre pris dans un corset de couleur rose, assez banal, comme on en voit aux devantures des marchands de lingerie dans les petites villes de province. Un corset comme en portent les femmes quand elles commencent à grossir et qu'elles se serrent le ventre toujours davantage pour paraître sveltes. Ses pieds reposent sur le sol, très sagement, côte à côte. Ils ressemblent à des pieds d'enfant ou de vieille fille. Elle est sans doute plus attirante lorsqu'elle marche avec ses escarpins noirs. Ils ont de hauts talons, une bride sur le coup de pied. Ils ne doivent pas être pratiques, surtout lorsqu'il s'agit de porter des valises, de monter dans des wagons. Il aurait mieux valu des chaussures plates. Mais ce n'est pas la mode. Et toutes les femmes marchent ainsi désormais, comme en titubant. Même fatiguée par le voyage, elle a gardé une coiffure impeccable. Ses cheveux blonds sont plaqués, avec de petites boucles artificielles, des ondulations sur les joues et au-dessus de la nuque. Elle a dû aller chez le coiffeur avant de partir pour qu'on lui fasse une indéfrisable, pour que ses cheveux tiennent bien au milieu des courants d'air sur le quai des gares où on attend les trains toujours trop longtemps. Son visage est dur, il a perdu l'habitude de sourire, de parler à un homme, de plaisanter. C'est une femme qui a 40 ans et qui vit seule. S'il n'y avait pas cette poitrine un peu lourde, ses cheveux platinés, on pourrait dire qu'elle ressemble à un homme. Elle a, du reste, des bagages d'homme. Une valise noire, carrée, sévère, et un sac de voyage en cuir avec des soufflets. Ce pourraient être les bagages d'un voyageur de commerce, d'un homme qui se déplace beaucoup et qui ne transporte avec lui que les choses indispensables. Un complet de rechange, une trousse de toilette, une autre paire de souliers. Et c'est vrai, elle n'accorde à ses vêtements que très peu d'attention. Elle a jeté sa robe rose n'importe comment, sur le bras du fauteuil en peluche verte. Elle n'a pas ouvert sa valise ni son sac, ainsi que font les femmes lorsqu'elles arrivent dans une chambre d'hôtel. Toutes les femmes pensent d'abord à déplier leurs vêtements, à les accrocher dans l'armoire, à disposer tous les petits flacons de leur nécessaire de toilette sur l'étagère au-dessus du lavabo. Pas elle. Elle ne s'intéresse qu'à l'horaire des chemins de fer. Elle portait un chapeau, car pas une femme, même elle, ne sortirait en ville sans chapeau. Mais elle l'a posé, négligemment, sur le rebord d'un meuble, de guingois, sans y penser vraiment. C'est un chapeau noir, tout rond, avec une visière sur le devant. Un chapeau sans valeur pour elle. Juste un élément de l'uniforme que portent les femmes à cette époque, alors que les hommes ont des feutres mous avec un ruban. Elle s'est assise sur les draps. Il doit être assez tard, puisque l'employé de service est déjà replié au bas du lit contre le montant, le dessus en tissu violet. C'est un lit où il ne reste plus qu'à dormir, après avoir consulté un horaire en se faisant réveiller très tôt le lendemain. On voudrait en savoir plus. On voudrait comprendre ce qui fait qu'une femme est seule dans cette chambre d'hôtel. La raison pour laquelle, dans cette chambre, elle ne cherche même pas à se reposer, à ouvrir ses bagages, à s'étendre sur le lit. On voudrait comprendre pourquoi la lumière est si vive, si dure, sur le mur blanc, sur les épaules de la femme, sur les draps. Pourquoi n'y a-t-il rien qui la rassure? Pourquoi n'y a-t-il pas une lampe de chevet avec un cône de lueur orange ou rose? Pourquoi faut-il que cette femme, qui n'est pas vraiment laide, ni vieille, ni pitoyable, se désintéresse d'elle-même et se néglige, et ne songe qu'au voyage du lendemain? On aimerait savoir pourquoi les chambres sont si froides dans les hôtels des grandes villes, quand on est seul. On aimerait que cette femme s'anime, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle se démaquille, qu'elle mette une chemise de nuit, blanche, bien douce. Et qu'elle s'endorme enfin entre les draps. Chambre d'hôtel de Claude Esteban, interprété par Joséphine, d'après le tableau d'Edouard Hopper.